Le 14 juin 1965. Mère cherche une carte pour écrire. L'une est illustrée d'un gros poisson.
Oh, ça c'est un poisson.
Quel est le symbole des poissons?
Oh, c'est... Mais c'est pas les bouddhistes qui ont deux poissons comme ça. Je crois que c'est la multitude.
Je fais souvent des rêves sous-marins.
Oh.
Et puis par exemple, l'autre jour, j'allais sous l'eau, sans difficulté aucune d'ailleurs.
Oui.
Et il y avait des tas de poissons, je faisais une pêche sous-marine, mais ces poissons étaient morts ou venaient de mourir.
Oh.
Il y avait des quantités de poissons qui n'étaient pas décomposés, qui étaient encore bons, mais morts, parce qu'ils n'avaient plus d'air ou plus d'eau, je ne sais pas.
Généralement, les poissons avec la mer, c'est la multitude, n'est-ce pas? C'est pas, mais il doit y avoir beaucoup de choses parce que il y a ces deux poissons qui sont comme ça dans le bouddhisme. Ils emploient beaucoup l'image du poisson comme symbole. Il y a des symboliques, mon petit, il y en a des centaines et des centaines. Et alors, on les oppose toujours, mais au fond, c'est seulement comme ça. C'est des manières de voir. Moi, d'après mon expérience, chacun a sa symbolique. Par exemple, pour les serpents, c'est très, très remarquable, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils rêvent de serpents, ils ont l'impression qu'il va leur arriver des catastrophes. Moi-même, j'ai eu des rêves de serpents où j'avais à traverser des jardins qui étaient remplis de serpents partout, par terre, sur les arbres, partout. Et des serpents pas bienveillants. Mais je savais très bien ce que ça voulait dire. Au moment même, je savais, n'est-ce pas, ça dépendait de certaines conditions mentales autour de moi. Et des mauvaises volontés. De mauvaise volonté mentale. Et alors, si on a justement le contrôle et le pouvoir mental, on peut passer au travers d'eux, ils ne peuvent pas vous toucher. Et il y a d'autres gens, quand ils voient un serpent, ils croient que c'est, n'est-ce pas, la conscience universelle. Alors, on ne peut pas dire. Théon disait toujours que le serpent est le symbole de l'évolution. Et lui, que les gens qui étaient avec lui voyaient toujours des serpents couleur arc-en-ciel. N'est-ce pas? Avec toutes les couleurs, comme ça. Et c'était le symbole de l'évolution universelle. Au fond, vraiment, chacun a sa symbolique. Et moi-même, ça dépend des époques, des activités, du degré de développement, toutes sortes de choses. Il y a des choses que je revois maintenant et dans lesquelles je vois un autre sens qui était derrière le sens que j'avais vu. C'est très intéressant. Mais ça appartient tout à fait au domaine de la relativité. C'est très mental. C'est intéressant. je me souviens d'avoir vu, par exemple, il y avait un temps où je voyais les gens sous forme d'animaux. C'était l'indication du type de nature auquel il appartenait. Et alors je me souviens, quand j'étais encore en France, d'avoir vu un jour, j'étais assise dans une grande chambre, et il y avait des tas de petits animaux qui venaient, surtout des lapins, des chats, des chiens, mais toutes sortes, des oiseaux. Ils venaient tous sur mes genoux. Et il y en avait. Et alors, tout d'un coup, entre dans la chambre un grand tigre qui se presse et qui sur ça, et puis, il les a envoyés promener par. C'est arrivé comme ça. Souvent, les animaux, c'était des gens, et le tigre aussi, c'était quelqu'un. C'est amusant. Mais maintenant, je vois qu'il y a des profondeurs comme ça. On a une symbolique et puis une profondeur, c'est tout autre. Et au fond, toute forme est un symbole. Toutes les formes, notre forme est un symbole. Pas très brillante. Oh. Si j'avais rien à faire, que je passe mon temps à écrire simplement mes activités de la nuit. Ce que je vois, j'entends et je fais la nuit avec tous les gens, toutes sortes de gens, dans toutes sortes de pays. Et des choses, tant de choses que je n'ai jamais vues physiquement, auxquelles je n'ai jamais pensé. Des choses tout à fait inattendues. C'est plus intéressant que les romans. Oh oui. Moi, il faut beaucoup de temps.
Oui, mère passe à la traduction de Savitri, le dialogue avec la mort. And my will, once wrought, remains unchanged through time, and Satyavan can never again be thine.
Satyavan ne peut jamais être tien de nouveau. Je ne peux jamais de nouveau être bien. C'est tout. Il l'a fait un peu stupide parce que même s'il ne revient pas dans un corps, qu'est-ce qui l'empêche de... Il a forcé un petit peu. Et souvent. Et elle lui dit après, tu connais ça? Après elle lui dit, on te gardera tout de même, on a encore besoin de toi pendant quelque temps. Quand il est bien battu, fini, alors il lui dit, on te gardera encore parce qu'on a encore besoin de toi. Vous ne rappelez pas de ça? Mmh. Du cadeau. Oh, c'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est indispensable. Je me souviens d'avoir lu le temps où je recevais, je crois que c'était le matin, le journal le matin, il y avait des romans. Moi, je lisais les romans pour voir l'état d'esprit des gens. Il y avait un roman extraordinaire où il y avait le personnage principal était une femme qui était immortelle. Elle avait été condamnée à être immortelle, je ne sais pas par quelle divinité. Et elle essayait de son mieux de mourir et elle n'y arrivait pas parce que c'était... On lui avait dit, c'était idiot, le tout était idiot, mais c'était le point de vue retourné, n'est-ce pas, qu'elle était immortelle obligatoirement, et que, ouf, elle disait, quand est-ce que je pourrais mourir avec l'idée ordinaire, n'est-ce pas, que c'est la fin, que tout est fini, qu'on se repose. Et alors on lui avait dit qu'il ne pourra mourir que lorsque tu trouveras sur terre l'amour véritable. Ça paraît tout mis à l'envers, mais quand j'ai lu ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Quelquefois, les plus grosses stupidités sont les choses qui vous font réfléchir le plus. Et alors, pour compléter l'histoire, elle était une chose, une autre, prêtresse en Égypte, et puis enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et finalement, je me souviens plus, c'était dans les temps modernes. Elle avait rencontré un couple de jeunes mariés. Le mari était un homme remarquable, intelligent, et qui, je crois que c'était un inventeur qui avait trouvé des choses. Sa femme, il l'aimait passionnément, était une imbécile, stupide et méchante, qui gâtait tout son travail, qui abîmait toute sa vie, et il continuait à l'aimer. Et alors, c'était ça qu'ils ont donné comme exemple de l'amour propre. Et j'ai lu ça il y a plus de 50 ans, peut-être, n'est-ce pas? Et je m'en souviens encore parce que ça m'a fait réfléchir pendant longtemps. J'ai vu ça, et je me suis dit, voilà comment les hommes comprennent. J'avais déjà, il y a certainement plus de 50 ans, parce que j'avais déjà rencontré le cosmique, l'enseignement sur et la présence divine intérieure, et que la nouvelle création serait une création d'immortalité. Tout ça. Et que j'avais senti tout de suite que c'était vrai, que c'était une façon de dire quelque chose qui était vrai. Et alors j'ai lu ça, et je me suis dit, voilà comment les hommes mettent tout à l'envers, la tête en bas, les pieds en l'air. Et j'ai réfléchi longtemps à comment amener ça à la position véritable. Et commencer déjà à ce moment-là, je pratiquais ça, de se mettre à ce point de vue-là, de regarder les choses à ce point de vue-là, de comprendre comment ce point de vue peut exister. Ces deux choses, la volonté de mourir et que cet homme considérait comme l'amour parfait. Les deux André. Mais j'ai découvert ce qu'il y avait de vrai dedans. C'était ça qui était intéressant. En cherchant, je me suis dit, j'ai cherché pour ça, et puis j'ai tout d'un coup senti le... n'est-ce pas, cette aspiration vers l'immuable, la paix immuable. Mais c'était à l'envers. Ce n'est que la paix immuable qui peut vous donner l'éternité d'existence. Et là, c'était tout à l'envers. On voulait cesser l'existence pour trouver la paix immuable, mais c'est la paix immuable qu'on cherche, et c'est ça qui oblige à la cessation d'existence pour permettre la transformation. Tu comprends ce que je dis ? Ça n'a pas de sens. Tu ne comprends pas.
Si.
Ça n'a pas de sens ce que je dis.
Si, mais. Si, mais.
Et puis alors, n'est-ce pas, l'amour qui est inconditionné. Ça ne dépend pas si quelqu'un vous aime ou ne vous aime pas, est intelligent ou ne l'est pas, est méchant ou ne l'est pas, ça c'est bien entendu. Mais c'était mis d'une façon ridicule, mais ça c'est bien entendu, l'amour est une chose inconditionnée. Autrement, c'est pas de l'amour, c'est ce que j'appelle du marchandage. Je te donne mon affection pour que tu me donnes la tienne. Je suis gentil avec toi pour que tu sois gentil avec moi. Ça, c'est comme ça que les gens comprennent, mais ça, c'est une... ça n'a pas de sens. Ça, c'est une chose que je comprenais quand j'étais tout petit. Je disais non. Vous pouvez avoir envie, n'est-ce pas, que les autres soient gentils avec vous si vous êtes gentil avec eux, mais ça n'a rien à faire avec la mort. Non. Rien, absolument rien. L'essence même de l'amour est d'être inconditionné.
Oui, mère passe à un autre sujet. Les conditions d'admission à l'ashram.
Nous sommes en train d'élaborer comment est-ce qu'on peut appeler ça, un règlement. Oh, c'est un vilain mot. Pour l'admission à l'ashram. Non pas que si on accepte le règlement, on est admis, c'est pas ça. C'est quand quelqu'un est admis, on lui dit, mais voilà, vous savez, quand il est admis potentiellement, on lui dit, voilà à quoi vous vous engagez en devenant un membre de l'ashram. Parce que, n'est-ce pas, les demandes d'admission pleuvent comme les sauterelles. Et au moins 99 sur 100, ce sont des gens qui veulent venir ici pour être confortables et se reposer et ne rien faire. Il y a 1 sur 100 qui vient parce qu'il a une aspiration spirituelle, oui encore. Mitigé. Alors, il ne faut pas qu'ils vous disent après, parce que nous avons des expériences, les gens disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était comme ça !» Parce qu'on ne leur avait pas dit. Je ne savais pas, par exemple, qu'il ne faut pas qu'il faut pas faire, qu'il faut pas fumer. Et qu'il faut pas boire d'alcool, qu'il faut pas, être marié, pas, excepté nominalement, etc. Et puis qu'il faut travailler, et puis qu'il faut que tous vos désirs ne sont pas automatiquement satisfaits. Et alors, il y a des gens qui m'écrivent des lettres. Vous m'avez dit que... Oh, que je n'ai jamais dit, naturellement. En telle date, tu comprends, c'est assez loin pour que je ne me souvienne. Vous m'avez dit que... Et alors, je vois très bien, d'après ce qu'ils écrivent, ce que moi j'ai dit et comment ils l'ont fait comme ça, n'est-ce pas? Alors, on va maintenant mettre un papier qu'on leur donnera à lire. Et on leur demandera, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Et quand ils auront dit qu'ils ont bien compris, signé, au moins on gardera ça, et quand ils commenceront à être embêtants, on peut leur montrer, je leur dire, pardon. On vous a prévenu. Prévenu que ce n'est pas un endroit... édénique, où on peut... rester à ne rien faire comme ça, et puis que les alouettes vous arrivent toutes rôties dans la bouche. Alors moi j'ai mis une première condition. C'est de j'ai mis en anglais. Que l'unique but de la vie est de se consacrer à la réalisation du but. Je n'ai pas mis dans ces termes, mais c'est ça. Il faut d'abord, on peut se tromper soi-même, mais ça n'est pas difficile. Mais il faut d'abord être convaincu que ça, c'est ça qu'on veut. Et on veut seulement ça. Vraiment. Alors, il y a Dominique qui a dit qu'il fallait que la seconde chose soit qu'on reconnaisse mon autorité absolue. J'ai dit, ça ne part pas comme ça. Il faut mettre qu'on reconnaît l'autorité absolue de ce Yobindo. On peut ajouter, représente. Par moi, parce qu'il ne peut pas parler, n'est-ce pas? Il se tient à moi. Moi, il parle très bien, mais les autres n'entendent pas. Et puis alors, il y a beaucoup d'autres choses, je ne sais plus. Et puis il y en a une dernière, qui est comme ça. Avant, je me souviens quand je suis au Bino, parce que au Bino avait fait un petit comme ça, comme ça. Qu'on donnait aux gens qui se souviennent, mais c'est périmé. Il était question de ne pas discuter avec la police. C'est périmé. Et moi, je ne veux pas mettre de défense, parce que c'est les défenses, d'abord, c'est un encouragement à la révolte, n'est-ce pas? Toujours. Et puis, il y a aussi là un bon pourcentage de gens, quand on leur défend de faire ces choses, immédiatement ils ont envie de le faire. Ils n'y pensent peut-être même pas autrement, mais ça suffit pour que... Ah! Moi je fais ce que je veux, tu vois. Alors, je fais une distinction. Il y a les gens qui viennent ici pour... ils veulent se consacrer à la vie divine, mais en fait, c'est pour faire du travail. Ils travailleront, ils ne vont pas faire un yoga intensif parce qu'il n'y en a pas un sur 50 qui soit capable de le faire. ils sont capables de dévouer leur vie et de travailler, de faire du bon travail d'une façon désintéressée, n'est-ce pas, comme un service pour le divin, ça c'est très bien. Mais alors, en particulier, to those who want to practice the integral yoga, it is strongly advised to abstain from three things, and only three things. In sexual intercourse, ça, ça vient en troisième. En deuxième, sexual intercourse and qu'est-ce que
drinking?
Drinking alcohol. Il faut te dire que ça a été comme ça. Je suis née dans une famille où personne ne fumait. Mon père n'avait jamais fumé et ses frères n'avaient jamais fumé. Enfin, on ne fumait pas. Par conséquent, tout petit enfant, je n'étais pas habitué. Et après, quand je me suis mise quand j'ai vécu avec des artistes, n'est-ce pas, les artistes fument. Il paraît que ça leur donne des inspirations. Mais j'avais une horreur de l'odeur, n'est-ce pas? Moi, je ne disais rien parce que ne faut pas être désagréable. Mais là, et puis, comme ça, je suis arrivé ici, sur le window fumé exprès. Ben, il fumait comme ça, pour dire, on peut faire le yoga en fumant. Je dis qu'on peut fumer et faire le yoga, et je fume. Et puis, tous les disciples fumaient, parce que ma cœur a oublié de fumer. Et je leur ai donné pendant quelque temps, je leur ai donné même de l'argent de poche pour qu'ils achètent des cigares. On fumait des cigares, c'était une infamie. Et puis quand je suis libre dans la maison, puis en bino, nous avons parlé librement un jour, je lui ai dit que la fumée peut sentir mauvais, c'est dégoûtant. Alors elle m'a dit, oh, vous n'aimez pas l'odeur de la fumée. Oh, je dis non, non seulement ça, mais j'ai dû faire un effort yogique pour que ça ne me donne pas mal au cœur. Le lendemain, il avait cessé. C'était tout fini. Ça, c'est gentil. C'était pas par principe, mais c'était parce que parce qu'il voulait pas m'imposer un truc. Mais j'avais jamais rien dit. C'est simplement parce qu'il m'a demandé, comme ça, en conversation. Et puis, alors je lui ai dit, et quand il a cessé de fumer, tout le monde a dû cesser de fumer. C'était plus permis de fumer, lui ne fumait plus. Non, pour ceux qui ne fument pas, la fumée des autres est une chose près. Mais c'était la même chose pour la nourriture, la viande et tout ça. Pendant longtemps, on a mangé. Oh, même c'était très amusant. Pavitra était un végétarien à tout craint quand il est arrivé. À ce moment-là, non seulement nous n'étions pas végétariens, on tuait les poulets dans la cour. Et Pavitra, il avait juste la chambre à côté de la cuisine. On lui tuait les poulets. Oh, Pavitra. l'équipage, c'est parce que, pour une raison très simple, c'était pas du tout pour. Mais c'est parce que c'était pour entretenir des gens avec de la nourriture carnée, c'est beaucoup plus coûteux que végétarien. Ça représentait des complications. Moi, j'étais végétarienne par goût. N'est-ce pas? Toutes mes choses, c'est par goût. Ce n'est pas par principe. Je suis devenue végétarienne au commencement, oh, il y a longtemps. Il y a, oui, il doit y avoir plus de 60 ans. Parce que, dans mon enfance, on m'obligeait à manger de la viande, et que ça me dégoûtait pas l'idée, c'était le goût que j'avais. Ça me dégoûtait. Et je n'aimais pas. Et alors, on faisait, le docteur m'a obligé à me donner des pickles et toutes sortes de choses pour couvrir le goût. Alors, dès que j'ai été indépendante et libre, j'ai dit « fini ». Je ne mange plus. Pas comme une règle, puisque de temps en temps, je prends encore du foie gras. C'est pas végétarien. Il y a des choses. Longtemps, j'ai encore mangé de la langouste ou du homard, parce que j'ai... Comme ça. Pas des règles. Oh, surtout pas de règles. Hein. Mais, comme ça, il y a plutôt des complications. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, des complications. C'est exactement comme ça que je sentais. Mais le docteur voulait absolument que, oui, il fallait. Quand je suis montée ici, tu sais qu'ils m'ont fourré au lit pendant je ne sais combien de temps. Je n'arrive pas à savoir combien de temps. Personne ne veut me le dire. Et le docteur, quand j'ai recommencé à manger, il me faisait prendre du bouillon de poulet. Et puis alors, pour ce bouillon de poulet, on était obligé d'assassiner une poule tous les jours. Chez mon orangeur, il assassinait une poule tous les jours pour que je m'embrouille un peu. Et puis, on m'a dit, quand la chaleur a commencé, que les poules étaient malades, que ça les rendait malades et qu'après tout, c'était pas très bon à manger de la soupe de poule malade. Alors, j'ai dit, arrêtez. Et une fois que j'ai arrêté, alors mon cœur était content, maintenant on assassine plus de poulet. J'ai dit fini, on recommencera plus. Alors, il se trouve que c'est justement pendant cette période-là, j'ai engraissé 2 kilos. Alors, de ce temps-là, le docteur prenait mon poids. Et alors, il m'a dit, mais vous avez engraissé, j'ai dit, mais je ne tiens pas. Tu vois, je parle franchement, non. Il faut faire ce que je dis, ne pas faire ce que je fais. Fini maintenant. Oh. Pas par principe, pas par goût. Voilà mon petit.